Europe 1, il est 7h.
Il y a une première priorité, c'est l'évacuation du combustible. Une fois que le combustible est retiré, le risque d'accident nucléaire est écarté.
C'est un chantier titanesque qui s'ouvre aujourd'hui, celui de la fermeture de la centrale de Fessenheim. Comment se déroulera-t-il? La France va-t-elle produire encore assez d'électricité? C'est le dossier de la rédaction ce matin.
Une réunion ce vendredi au ministère de l'économie pour évoquer les conséquences de l'épidémie de coronavirus. Les commerçants en souffrent-ils en France? La réponse en direct de notre invité.
Emmanuel Macron, président des agriculteurs, avant d'inaugurer le salon demain à Paris, le chef de l'État a lancé la bataille de la PAC à Bruxelles.
Nous n'y sommes pas. La proposition qui a été faite par la présidence du Conseil a amélioré la copie. Nous allons encore nous battre pour l'améliorer.
Dans ce journal aussi, le recueillement en Allemagne après l'attentat d'hier à Hanau et un tacle signé Mourad Boudjelal.
Il n'y a pas d'âme, pas de patron. Le président d'un club, c'est un boulot à temps complet. Hein. Avec les moyens qui sont mis en place, ne pas gagner la Coupe d'Europe depuis le temps, c'est une faute grave. Quoi.
Mourad Boudjelal balance sur les dirigeants du PSG, l'ancien patron du club de rugby, face aux auditeurs d'Europe 1.
Europe 1, 7h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
C'est en quelque sorte une pionnière. Il y a 50 ans, la centrale de Fessenheim ouvrait la voie du développement du parc nucléaire français. Aujourd'hui, elle lance la transition vers une écologie, vers une énergie plus variée.
C'est sympa comme lapsus. À 20h30, le processus d'arrêt du réacteur numéro 1 sera lancé. Et ce sera en quelque sorte le coup d'envoi d'une opération qui va durer des années. Comment va-t-elle se dérouler? Quelles conséquences? C'est le dossier de la rédaction d'Europe 1 ce matin. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour.
D'abord, comment fait-on pour démanteler une centrale?
C'est un chantier titanesque, parce que ce n'est pas un chantier comme les autres. Il faut toute une batterie d'autorisation. Chaque étape va être scrutée à la loupe, parce qu'à la fin, il ne doit rien rester. Et ça va prendre 20 ans pour démonter les deux réacteurs. Ça devrait coûter entre 350 et 500 millions d'euros. Tout cela est évidemment au conditionnel, hein, parce que c'est la première fois qu'EDF se lance dans un chantier de démantèlement aussi ambitieux. Et avec une première phase de 5 ans, assez délicate, comme l'explique Pierre Bois de l'Autorité de Sûreté Nucléaire.
Il y a une première priorité, c'est l'évacuation du combustible. Une fois que le combustible est retiré, le risque d'accident nucléaire est écarté. Cette opération doit prendre environ 3 ans. En parallèle, un certain nombre d'opérations de nettoyage de l'installation vont avoir lieu dans le but de vidanger les circuits, de faire une première décontamination et donc de préparer le terrain pour ensuite les opérations de démantèlement à proprement parler.
Alors avec ce démantèlement, Maud, ce sont des tonnes de gravats contaminés qui vont devoir être évacués et traités. Qu'est-ce qu'on va en faire?
Alors ils vont aller dans des centres de stockage. Les plus radioactifs partiront à Bure pour être enfouis. C'est un projet qui est dénoncé par les écologistes. Le combustible, lui, partira au centre de retraitement de La Hague.
Deux réacteurs à l'arrêt à partir du mois de juin, ça veut dire moins d'électricité produite, évidemment. Comment est-ce qu'on va faire pour répondre à la demande?
Alors jusqu'en 2022, il n'y a aucun problème. Hein. Les énergies renouvelables vont compenser. On va aussi importer de l'électricité de Grande-Bretagne et d'Italie. Mais après 2022, ça va se compliquer. D'abord parce que 3 des 4 dernières centrales à charbon vont fermer définitivement leurs portes. Et ce qui va compliquer aussi la situation, c'est que la nouvelle centrale de Flamanville ne sera toujours pas en service, comme l'explique Jean-Paul Roubin du réseau de transport d'électricité.
Ces hivers, en particulier 2022-2023, sont des hivers que, effectivement, on pressent sous vigilance. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des coupures d'électricité, simplement qu'on pourrait rencontrer par moment un certain nombre de tensions et qu'il est donc important d'activer les leviers qui ont été identifiés par RTE.
Et un de ces leviers, c'est la maîtrise de notre consommation. Il pourrait donc être demandé aux Français de faire attention à leur consommation d'électricité si les hivers sont très froids.
Et d'ici 2035, ce sont 12 autres réacteurs qui doivent être arrêtés au nom de la transition écologique. Vaste chantier qui s'ouvre. C'était le dossier de la rédaction signé Maud Descamps. On va en reparler notamment avec Nicolas Bétou, l'opinion de Nicolas Bétou à 7h55. La folle histoire de la fermeture d'une entreprise en parfaite santé, nous dira Nicolas.
C'est le 4e rapatriement de ressortissants français. 34 personnes attendues ce matin à Branville, près de Caen, venues de la province chinoise la plus touchée par le coronavirus. Elles vont être confinées dans un village de vacances où, dès hier, de nombreux clients ont choisi de quitter les lieux. Reportage pour Europe 1 de Charles Guyard.
C'est un balai presque incessant de voitures qui quittent le Normandie
Normandy Garden, un complexe touristique à une trentaine de kilomètres de Caen. Les coffres sont souvent pleins et pour beaucoup, eh bien, les vacances se sont arrêtées. Cela a commencé par un SMS reçu dans la matinée invitant à se rendre à la réception. La suite, c'est Florian et Lucille qui la racontent.
On nous a expliqué qu'en effet, il y avait des Français rapatriés de Chine et qu'on les mettait en quarantaine.
C'est vers l'étang, c'est nous où on était, donc on nous a demandé de partir.
Avec les enfants, par mesure de précaution, on préférait rentrer.
Ouais. Rentrer à la maison, c'est aussi le choix d'une autre famille, comme celle de Léon qui, du haut de ses 8 ans, a bien du mal à tout assimiler.
Il y a les Chinois qui viennent, on part demain.
À côté, son père, Clément, esquisse un petit sourire gêné. Comme un tiers des clients, lui aussi va écourter son séjour et rentrer sur Blois.
Je repars demain matin, avant que les personnes arrivent dans l'hôtel. Même si le risque il est infime, on va pas prendre de risque. Surtout qu'on a des enfants, donc c'est pas une surprise agréable parce qu'on loupe une journée de vacances, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus graves dans la vie.
Ce vendredi, 34 ressortissants français en provenance de Chine vont donc s'installer avec le personnel médical dans une partie du site privatisée pendant 14 jours. Le reste du centre, qui s'étale sur une douzaine d'hectares, reste lui ouvert aux autres vacanciers. Branville, Charles Guyard pour Europe 1.
C'est difficile hein, quand même de ne pas les comprendre. Vous auriez fait quoi à la place de ces vacanciers? Il y a des habitants de Wuhan qui arrivent. Est-ce que vous restez en vacances sur place? Je ne sais pas. Le coronavirus qui pourrait coûter jusqu'à 30 milliards de dollars au secteur aérien cette année. Les effets de l'épidémie se font ressentir dans de nombreux secteurs à travers le monde.
Et ce matin, donc, une réunion doit avoir lieu à Bercy pour faire le point sur les conséquences en France de l'épidémie. Bonjour Yoann Petiot.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'Alliance des commerçants. Vous avez déjà un chiffrage, une idée de l'impact économique de ce coronavirus en France ?
Oui, il est encore un peu tôt pour tirer un bilan complet puisqu'on est encore au plein cœur de la crise. Mais ce que l'on sait d'ores et déjà, c'est que cette crise aura un impact lourd sur l'ensemble des acteurs du tourisme et notamment les commerces qui accueillent une forte clientèle internationale. On estime depuis le début de la crise que la fréquentation de la clientèle chinoise a chuté d'en moyenne 70% dans ces zones touristiques.
Moins 70% pour la clientèle chinoise dans les zones touristiques. C'est une clientèle qui consomme beaucoup en déplacement ?
Oui, bien sûr, ça fait partie des clientèles internationales qui dépensent le plus. Par année, c'est 4 milliards d'euros de dépenses réalisées par ces touristes chinois et ils sont plus de 2 millions à venir chaque année visiter notre pays.
Et c'est un phénomène qui se constate en région parisienne, j'imagine, mais ailleurs aussi dans l'Hexagone ?
Oui, aujourd'hui, toutes les zones touristiques à forte attractivité internationale sont touchées puisqu'il y a des restrictions de voyage fortes vis-à-vis de la clientèle chinoise. Donc, bien sûr, toute clientèle, enfin toute zone internationale est bien sûr touchée par cette crise.
Concrètement, vous attendez quoi de cette réunion aujourd'hui, Yoann Petiot ? Des allègements de charges, des aides du gouvernement ?
On attend d'abord et avant tout, si possible, de l'information et une visibilité. Dans cette crise, il y a beaucoup de choses qui sont dites, des informations qui ne sont pas toujours vérifiées et des inquiétudes fortes. Donc il faut rassurer ces inquiétudes qui sont légitimes, mais éviter toute réaction disproportionnée qui pourrait avoir un impact social et économique lourd sur les acteurs. Il faut informer, mais sans créer de psychose, pour que tout le monde puisse... poursuivre son activité dans cette période difficile.
C'est très clair, c'est très précis. Merci Yoann Petiot, directeur général de l'Alliance des commerçants, d'avoir été en direct sur Europe 1 avec nous ce matin.
Il est 7h08.
Les comptes du président de l'Assemblée nationale. Au rythme actuel d'examen des amendements, il faudra 150 jours pour arriver au bout des débats sur la réforme des retraites.
À Matignon, comme à l'Élysée, on n'exclut donc plus d'avoir recours au 49-3. Le 49-3 qui permet, vous le savez, d'adopter un texte sans vote. Vu les blocages, c'est la seule option pour Patrick Mignola, président du groupe Modem, allié de la majorité.
J'ai été le premier à dire que de toute façon, c'était une perspective qu'il fallait envisager. Je ne parle pas de 49-3, je parle de 3-49. Parce que là, en l'occurrence, ce n'est pas un 49-3 pour lever les préventions de la majorité, c'est plutôt pour dépasser les obstructions de l'opposition. Et elles sont nombreuses parce qu'on voit bien que les oppositions font des amendements point-virgule, ils changent une ponctuation, ils mettent un mot pour un autre. Donc je crois qu'on est arrivé à une situation pas sérieuse, malheureusement pas du fait de la majorité. Bah, c'est à nous d'apporter des réponses claires désormais et de sortir de cette sorte de marasme délétère qui est en train d'abîmer profondément les institutions.
Et dans l'opposition, en revanche, l'hypothèse fait bondir. Ce serait un terrible passage en force pour le député insoumis Adrien Quatennens.
On voit bien que comme ils sont en train de s'impatienter et qu'ils ont face à eux une opposition qui défend pied à pied ses positions, ils sont en train de, disons, essayer de surjouer l'indignation sur l'obstruction parlementaire pour essayer effectivement de préparer les esprits à l'usage de ce que moi je qualifie avec mes amis de LBD parlementaire. le 49-3. Non content de passer comme un bulldozer sur le système de retraite, de le faire en plus à toute vitesse et sans vote de l'Assemblée. Moi j'insiste, l'obstruction elle vient de chez eux. Pourquoi 3 semaines de débat? Pourquoi faut-il que le texte passe impérativement avant les municipales? Donc franchement, si l'issue de ça c'est cerise sur le gâteau, un 49-3 pour faire passer tout ça en force, très franchement, je crois que c'est par ailleurs signé l'arrêt de mort de La République En Marche.
Le député insoumis Adrien Quatennens au micro Europe 1 de Claudia Bertram.
Les difficiles discussions autour du budget européen, entretiens bilatéraux tout au long de la nuit et sans doute une nouvelle proposition ce matin.
Pour tenter de trouver un compromis entre les 27, alors que dès hier, chacun a dévoilé ses priorités et ses lignes rouges. Pour Emmanuel Macron, l'enjeu principal, c'est d'éviter une baisse des crédits accordés à la politique agricole commune. Adrien Beck suit ce sommet à Bruxelles pour Europe 1.
Comme tous ses prédécesseurs au moment du vote du budget européen, Emmanuel Macron se transforme en président des agriculteurs. Alors, face aux pays du Nord qui ont fortement attaqué la PAC hier soir, dixit son entourage, le chef de l'État est monté au front. Et pour cause, les agriculteurs français en sont les premiers bénéficiaires en Europe. 9 milliards d'euros par an, un budget qui pourrait baisser de 14% pour les 7 prochaines années. Et malgré quelques avancées, Emmanuel Macron a prévenu dès son arrivée au Conseil européen.
Nous n'y sommes pas. La proposition qui a été faite par la présidence du Conseil a amélioré la copie. Nous allons encore nous battre pour l'améliorer. C'est indispensable pour notre souveraineté alimentaire. C'est aussi indispensable pour avoir une agriculture qui permette l'alimentation de qualité et la transition climatique que nous défendons.
D'autant qu'Emmanuel Macron le sait, à 24 heures du début du Salon de l'agriculture, son accueil dépendra beaucoup des résultats de ce sommet. Alors pas question d'arriver face aux agriculteurs avec une baisse de la PAC dans ses bagages. Bruxelles, Adrien Beck, Europe 1.
Emmanuel Macron qui, dans un entretien à la presse quotidienne régionale, dénonce les violences contre les agriculteurs. Il promet également la création d'un fonds de soutien pour ceux qui seraient impactés par les sanctions américaines.
Le chef de l'État qui se félicite aussi des premiers effets de la loi Egalim qui visait à rééquilibrer les relations entre distributeurs et producteurs. Et ce bilan, on va le faire avec vous. Daniel Fortin, bonjour.
Bonjour Marine, bonjour
à tous. C'est l'éclairage éco avec cette question. Donc, cette loi a-t-elle permis aux agriculteurs d'être mieux payés?
Alors écoutez, si on s'en tient aux chiffres généraux, ça ne saute pas aux yeux. Selon une estimation faite en janvier dernier par la Commission des comptes de l'agriculture, le résultat net des exploitations aurait baissé de 10,6% l'an dernier. Donc il n'y a pas de quoi se réjouir. Mais quand on regarde plus en détail, il y a quand même du mieux, grâce notamment à cette loi Egalim que vous évoquiez. Elle a été votée il y a 16 mois. Elle avait pour objet de redonner du pouvoir d'achat aux agriculteurs en fixant les prix sur la base de leurs coûts de production, en obligeant aussi les industriels à passer des contrats de long terme pour sécuriser ces prix, et ils l'ont fait. Même chose d'ailleurs pour les distributeurs. Pour la première fois, Auchan, Lidl ou encore Intermarché seront présents au salon.
Donc ça veut dire, Daniel, qu'on paye plus cher le lait ou la viande?
Alors pour le secteur laitier, c'est oui. Il a bénéficié d'une hausse du prix du litre qui a grimpé de 35 centimes à 38 centimes. Mais c'est une moyenne et ça ne veut surtout pas dire que tous les éleveurs en bénéficient. Sur les viandes ou sur les fruits et légumes, en revanche, on ne voit pas encore d'effet franchement positif sur les prix, mais c'est aussi parce que ces filières ont du mal à fournir des indicateurs de coûts suffisamment fiables pour calculer les tarifs de leurs produits. Ce qui est certain à ce stade, c'est que les prix alimentaires dans leur ensemble ont cessé de reculer. Ils ont même augmenté de 0,9%. C'est en soi un indicateur positif puisque ces prix avaient baissé depuis 5 ans.
C'était l'éclairage de Daniel Fortin, rédacteur en chef du journal Les Échos. Merci.
Et votre journal se poursuit dans un instant. L'intensification des affrontements dans la région d'Idleb en Syrie.
Et puis aussi la réédition des albums Yé Yé de France Gall, réédition aux États-Unis où la chanteuse, vous l'entendrez, a aussi ses fans.
Europe 1, il est 7h14, Marion Calais, Mathieu Béliard.
Des milliers de personnes rassemblées hier dans une cinquantaine de villes en Allemagne. Le recueillement après les fusillades contre des bars à chicha qui ont fait 9 morts.
Dans un manifeste, l'assaillant présumé retrouvé mort avait exposé ses thèses racistes. Alors face à la menace d'extrême droite, hier soir, le président allemand a appelé à faire preuve de solidarité. Il assistait à une cérémonie à Hanau. Rémi Bossaron y était pour Europe 1.
Sur la place centrale de Hanau, où la foule se presse pour se recueillir, ces trois lettres monopolisées organise les esprits et les conversations. AFD, on les prononce souvent avec dégoût, avec l'envie de mettre fin à la progression d'un parti qui, selon Pia, favorise par son discours le terrorisme d'extrême droite.
L'AFD fait basculer toute la société vers la droite. Beaucoup de gens votent pour eux sans réfléchir du tout et ils créent un climat qui rend possible cette violence. Ce qui était inimaginable hier devient possible aujourd'hui.
Mais beaucoup soulignent aussi la responsabilité des dirigeants allemands, coupables d'inaction alors que la haine contre les étrangers s'intensifiait, selon Hassan, l'un des nombreux membres de la communauté turque mobilisée hier soir.
L'État est aveugle de son œil droit. Il ne veut pas voir. Il doit lutter contre les arguments populistes de l'AFD. Il doit dire qu'il y a plus d'un million d'étrangers qui vont tous les jours au travail et qu'ils ne sont pas responsables de ce qui ne va pas dans ce pays.
À ses côtés, une jeune femme acquiesce et ajoute « C'est aussi à nous de savoir ce qu'on veut pour notre pays. L'Allemagne, c'est nous, les fanatiques de l'AFD, devraient y réfléchir. » À Hanau, Rémi Boistesaron, Europe 1.
C'est le pire exode en Syrie depuis le début de la guerre, il y a près de 9 ans. Jamais, en aussi peu de temps, autant de civils n'ont fui une région.
Cette région, c'est celle d'Idleb, au nord-ouest du pays, où le régime syrien et ses alliés affrontent les forces turques. On va tenter de comprendre ce qui se joue là-bas avec vous, Didier François. Vous êtes le spécialiste des questions de défense d'Europe 1. Il y a évidemment un enjeu humanitaire, mais aussi des enjeux stratégiques pour les belligérants.
Oui, l'enjeu humanitaire de cette offensive est majeur, puisque depuis la reprise des combats au début de l'année, c'est presque 1 million de personnes qui est à nouveau jeté sur les routes de l'exode, ce qui est énorme. La crainte de la Turquie, c'est évidemment qu'une nouvelle vague de réfugiés vienne s'installer de son côté de la frontière. Pour le régime syrien, en revanche, l'enjeu, c'est la réouverture de l'autoroute qui relie Alep à Damas et qui est le cordon ombilical de son économie. Or, sur ce point, Bachar el-Assad peut compter sur le soutien total de Vladimir Poutine, qui avait négocié en 2018 un cessez-le-feu avec le président Recep Erdogan en échange d'une installation de points de contrôle de l'armée turque tout au long de cette autoroute afin de garantir qu'elle reste ouverte à la circulation. Le problème, c'est que la Turquie n'a jamais été capable d'imposer le respect de cette trêve au groupe djihadiste. C'est ce qui a entraîné la reprise de l'offensive syrienne et le fait que des soldats turcs se trouvent aujourd'hui sous le feu. Et le président Erdogan a beau menacer Damas de représailles, il lui sera impossible de se lancer dans une intervention militaire d'ampleur tant que la Russie contrôlera le ciel syrien avec son aviation.
Les explications de Didier François pour Europe 1. Et hier, l'Union européenne a demandé la fin de cette offensive, la qualifiant d'inacceptable.
C'est une personnalité du sport français. Après 13 ans passés à la tête du club de rugby de Toulon, Mourad Boudjelal s'apprête à se lancer dans le foot, toujours sur la rade. Celui qui n'est encore que candidat à la reprise du Sporting Club de Toulon frappe déjà fort sur le ballon rond.
Oui, il est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Et il le prouve dans le rendez-vous mensuel du service des sports d'Europe 1. Ce sera dimanche soir sur Europe 1. Mourad Boudjelal qui s'attaque au PSG, dirigeant pas assez ferme et joueur pas assez tenu.
Il n'y a pas d'âme, pas de patron. Je veux dire, quand j'écoutais que Neymar était allé fêter son anniversaire, c'est scandaleux. Le frère d'un joueur qui insulte le coach comme il l'a fait, le joueur, dans les 48 heures, il n'est plus là. Et le frère, il part avec. Un président, ça doit être là. Le président d'un club, c'est un boulot à temps complet. Moi, je veux dire, sincèrement, avec les moyens qui sont mis en place, ne pas gagner la Coupe d'Europe depuis le temps, ne pas avoir une équipe qui survole, c'est une faute grave, quoi. Pour moi, c'est un motif de licenciement immédiat.
Mourad Boudjelal avec Lionel Rosso.
Il a compris. Il faut arriver, une phrase choc pour l'instant, le Sporting Club de Toulon.
Il a l'habitude.
C'est pas
Mourad
les résultats Boudjelal. Encore pour l'instant, mais il sait faire.
Dimanche, 20h, donc, pour ceux face aux auditeurs sur Europe 1. Et puis dans les stades, justement, c'est sans doute un hymne que vous avez déjà entendu. Au moins que vous avez fredonné.
Ça m'est arrivé.
Chanté. Mais oui.
Pop, 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 pop. Oui, ça y est, je l'ai.
Seven Nation Army des White Stripes, emmené par Jack White. Voilà, ça vous situe un petit peu le personnage. Jack White qui a un label aux États-Unis et qui vient de choisir de rééditer 3 albums de la période yéyé de France Gall, Angèle Châtelier.
L'Amérique, France Gall aimait la chanter. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun de ses disques n'y avait été pressé. Elle était pourtant écoutée outre-Atlantique. C'est ce que rappelle Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française.
France Gall n'était pas connue aux USA, mais sa musique était connue. Dans les French parties, qui étaient très à la mode au milieu des années 60, France Gall devient une Lolita totalement désirable pour un peuple américain qui se passionne pour les yéyés et les Frenchie Girls.
Si bien que Jack White, pourtant leader de groupe plutôt rock, s'entiche de France Gall et plus particulièrement de sa période yéyé. D'où cette idée d'éditer à Nashville trois de ses albums, Poupée de cire, Poupée de son. Album auquel a collaboré Serge Gainsbourg, tout comme sur Baby Pop ou encore 1968, considéré comme le dernier album yéyé de France Gall. Je ne demande pas. Jack White a même discuté avec le fils de France Gall, lui révélant la passion qu'il avait pour la chanteuse disparue il y a 2 ans. Elle a...
Ça aussi, on l'a fredonné, non ?
Ça nous est arrivé. Ça ou les Whites ? Moi, oui, comme disons.
Pardon, moins dans les stades.
Moins dans les stades. Quand même, ça, c'est une réalité. Vous connaissez Yann Cuchera ?
Oui,
c'est le candidat de Gérard Collomb à la mairie de Lyon. Alors Marion, elle connaît peut-être pas tous nos auditeurs. On va s'intéresser au municipal à Lyon. Ce sera à l'ouverture du journal de 7h30 avec Marguerite Lefebvre. 7h20.